Virage, les chemins de la transition, saison 2. Des regards, des visions, des chemins pour un monde plus souhaitable demain. Différents formats, portraits, reportages, différents sujets. Justice sociale, transition écologique, alimentation, féminisme, inclusion.
On n'a plus le temps de ne pas y croire. Réveillons-nous.
Une série originale proposée par Campus FM tous les mardis à 17h.
Salut les virageuses et virageux. Heureux de vous retrouver. La semaine dernière, c'était notre Théo qui était au micro. Aujourd'hui, comme en janvier, une émission théâtrale. La pièce s'appelle « Encore plus, partout, tout le temps ». Elle a été montée par le collectif « L'avantage du doute ». La pièce raconte justement la vie de cette troupe, qui cherche à créer un spectacle qui parle d'enjeux majeurs de notre époque, avec en tête la crise écologique, mais aussi le renouveau féministe, consécutif à MeToo. Avec beaucoup d'autodérision, d'humour, les cadras sur scène exposent leurs contradictions et essayent de trouver un peu de sens dans un présent pour le moins chaotique. La pièce était présentée 3 fois au Théâtre Sorano à Toulouse. Le dernier soir, 1h30 avant le spectacle, dans une loge, j'ai conversé avec le comédien Maxence Tual. Sur scène, il est souvent très drôle, parfois inquiétant. Dans la vie, il est accessible, mais vous allez voir, intranquille face à l'état du monde, qui ne le fait pas toujours rire. Bonjour Maxence Tual.
Bonjour Mathias.
Alors on va parler de la pièce, mais avant je voulais que vous me parliez un petit peu du collectif, l'avantage du doute, parce que même dans la pièce il est beaucoup question de ça, du collectif, de comment vous avez fait la pièce.
Ouais.
Est-ce que vous pouvez me le présenter un petit peu?
Ouais, donc le collectif c'est un vrai collectif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de leader, il n'y a pas de chef, on est tous metteurs en scène, tous auteurs et comédiens de nos spectacles, et on les crée ensemble, chacun... développe plus ou moins dans son coin à partir de points de départ qu'on partage, qui sont ou thématiques ou un corpus de films, de textes, de plein de trucs. Et à partir de là, chacun voilà, va dans la direction qu'il sent. Et en effet, on le met souvent en abîme parce que le travail de toutes les pièces du collectif part toujours de nous. Et c'est-à-dire qu'on part de nous, de ce qui nous touche intimement, presque, personnellement. Mais on part de nous aussi parce qu'on essaye de rendre ces questions théâtrales, publiques, politiques, collectives, au sens plus large. Du coup, pour cette raison-là, et puis aussi on se met en abîme parce qu'on aime bien créer ce trouble, cette espèce d'inquiétude dans la représentation, de savoir si le geste est un peu improvisé, si c'est vraiment des personnages ou des personnes, enfin, tous ces flous-là, parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui rend le spectacle vivant, vivant, en fait, tout simplement. Et ça active le spectateur à un endroit qui fait que, pour nous, c'est un vrai partenaire, quoi. C'est comme un sixième personnage hyper important dans l'adresse qu'on a, dans la manière qu'on a de l'inclure aussi dans tout ce qui se passe, sans que ce soit interactif non plus, mais qu'il soit pas là, en tout cas... trop loin de ce qui se passe devant lui sur scène, mais qu'il en fasse partie à la fois parce qu'on le confronte à des questions, à des expériences, à des choses qu'on espère qui vont le ramener à quelque chose de lui qui nous intéresse, et on espère qu'il intéresse lui aussi, quoi. À travers toujours une forme de, quand même, du coup, de distance, que ce soit l'humour ou à travers le traitement d'une forme, d'une image, de voilà, mais par contre voilà, l'idée du collectif c'est quand même de parler de notre présent, de partager des choses qui dans notre présent aux spectateurs et à nous on espère vont le questionner, et pas de monter des pièces de Tchekhov ou de Shakespeare, parce qu'évidemment que dedans il y a quelque chose qui reste toujours d'actualité, qui est une forme d'actualité, mais pas la même. Nous, ce qui nous intéresse c'est vraiment quasiment de tenir une sorte de journal, quoi, en direct, quoi.
Puis c'est un collectif qui est mixte, d'ailleurs, ouais. Vous interrogez le fait être une femme, être un homme, c'est pas anodin dans la construction d'une pièce.
Oui, oui, alors là, c'est parce que ce qu'on met aussi, ce qui nous intéressait, c'est que pour commencer un travail, on se rassemble et on se dit qu'est-ce qui te touche, qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce qui t'inquiète, qu'est-ce qui te met en colère, qu'est-ce qui te meut en ce moment, Et il s'est trouvé que Nadir et moi, on est les deux garçons de la pièce, on était très agités par toute la découverte du corpus collapsologique, enfin de tous ces auteurs qui, en 2018, quand on a commencé à se dire qu'on allait faire quelque chose qui a donné cette pièce, étaient encore relativement inconnus et qui depuis sont devenus voilà, des gens qu'on voit beaucoup, dont on entend beaucoup parler. Donc voilà, ça nous a touchés énormément. Et à ce moment-là, en effet, les actrices du collectif étaient, elles, des jeunes mères qui traversaient des choses difficiles en tant que femmes et qui faisaient écho en plus à beaucoup, parce que c'était aussi le début de MeToo, de tout ça, d'un renouveau de la littérature féministe, de l'expérience politique, de tout ça. Et à travers là, ce qui nous touchait vraiment intimement, la question de la charge mentale dans un couple fut-il extrêmement de gauche, extrêmement éduqué, qui reste totalement injuste. Et en fait, ce qu'on interrogeait à travers la question, ce qui nous intéressait à travers la question de l'écologie et du féminisme, c'est la question du privilège, quoi. Ça veut dire comment, en fait, c'est très compliqué dans l'humanité pour quelqu'un de renoncer à un privilège qu'il a acquis. Et c'est bien ça la catastrophe.
Et ce qui m'a frappé quand je suis sorti de la pièce, c'est aussi toutes les formes différentes de théâtre qui sont rassemblées. Vous commencez en toge, après aussi presque à un moment donné de l'horreur, du comique. En fait, est-ce que c'est vite arrivé ce côté un peu mixte, un peu de genre théâtral, de un peu tout?
Je pense que c'est lié justement au fait qu'il y a 5 auteurs. Donc chacun amène des univers, des envies, des images, une forme de sensibilité et de genre presque qui est différent. Et c'est ce qui fait, je trouve, l'intérêt des intérêts de ce qu'on fait, c'est qu'il n'y a pas un auteur et un metteur en scène. Il y a une vision vraiment collective et une écriture vraiment collective. Du coup, c'est ce qui peut dérouter des gens, parce que on essaye quand même de faire une sorte de pièce, mais c'est pas du tout une pièce avec une continuité narrative, une continuité des personnages. On saute, il y a des motifs qui reviennent, qui se transforment. Et puis là, en plus, il y a une double thématique qui doit se tisser, Voilà, donc il y a un gros travail de tissage de tout, mais ce qui fait qu'il y a beaucoup de genre et d'écriture, c'est parce qu'il y a beaucoup d'écriture, quoi. Donc, et puis aussi, bon, les toges et tout, c'est parce que vraiment, il y a eu l'idée qu'on voulait récupérer un maximum les éléments du décor, les costumes, et être dans un truc, en effet, comme on le dit, c'est à la fois un peu pathétique, mais c'est vrai, dans un truc, enfin, c'est la manière dont c'est mis en scène, c'est qu'on voulait vraiment être cohérent, quoi. Donc essayer de pas, et c'est vrai aussi ce qu'on dit, que c'est très compliqué, en fait, de récupérer, de transformer, parce qu'il faut il faut transporter. Souvent, on hérite d'un truc lourd en poids, donc il faut le transporter, c'est lourd, donc ça consomme plus d'énergie, etc., etc. Alors que si on l'avait fait nous-mêmes avec un truc plus léger, enfin bon, bref, c'est compliqué d'être cohérent. Voilà.
Puis il y a aussi le doute, je pense que c'est important, enfin, c'est le nom de votre collectif, et c'est vrai qu'on le voit aussi dans l'humour, que justement vous parliez sur ce que vous faites vous-même, il y a toujours ces questions, on remet en doute, en question, voilà, les discours.
Oui, alors l'idée c'est que partant d'un quand même d'une source thématique, il y a le risque de faire du discours, c'est-à-dire un truc un peu surplombant, un peu moral, un peu. Et nous, c'est pas ça évidemment qui nous intéresse. Nous, c'est de partager des expériences qui sont comme des questions auxquelles on n'a pas de réponse forcément. Ce qui n'empêche pas d'être engagé dans ces questions, et ce qui n'empêche pas qu'on n'admette pas toutes les réponses non plus, mais quand même qui est une question de voilà, de nous, on pose des questions ensemble, voilà, et on partage ensemble les expériences, des scènes, des choses, des éléments, mais justement le fait de partir de nous, c'est aussi pour dire nous, on ne sait pas. C'est vrai, on a lu 2-3 trucs, on a des idées, mais on ne fait pas de discours, justement, non, au sens scientifique ou philosophique. Voilà, c'est du théâtre.
Mais après ça, il y a des fois un peu le risque, dans le doute, que ça n'empêche d'agir au final. Enfin, il y a un peu ça.
Ouais, en même temps, on ne fait pas de politique non plus. C'est-à-dire que la matière est politique, mais on n'a pas un parti, on n'est pas... On dit quelque chose, je crois, qui quand même montre ce qu'on pense, mais ce qu'on pense n'est pas de l'ordre d'une règle morale ou à la limite éthique peut-être, mais pas morale. Et encore une fois, le doute, c'est voilà, c'est enfin, comment dire. C'est aussi ce qui peut conduire à des certitudes. Enfin, ça, on le sait quand même, c'est l'histoire de la philosophie, mais il n'y a pas de certitude s'il n'y a pas de doute. Donc, peut-être que nous, à un moment, dans nos vies, il y a eu des évidences, oui. Et il y a des choses qui sont précieuses. Ce n'est pas pour ça que tout est nivelé, que tout se vaut. Mais par contre, ce qu'on essaye quand même dans les scènes et dans l'écriture, c'est d'organiser un point de vue, des points de vue. Ça, c'est vrai. De confronter des points de vue qu'on espère qu'il y en a un que sans prendre vraiment parti. On espère au maximum gommer l'idée qu'il y a un héros et des cons. Et qu'en fait, même celui sur qui on va projeter quelque chose, finalement, on va être surpris par ce qui se cache en lui, l'ombre, ses propres doutes, justement, au personnage, ses propres fragilités, etc. Donc il y a aussi ça, ce souci de pas être dans une trop grande facilité justement de jugement, quoi. Parce que ça, c'est aussi trop facile.
Et est-ce que c'est pas aussi dans le titre, ça revient pas un peu à cette idée-là, encore plus partout, tout le temps, enfin, on nous demande un peu notre avis de choses qui un peu nous submergent, un peu comme ça.
Non, le titre, c'est vraiment l'idée du brise, quoi, d'accumulation, de toute puissance humaine, de quelque chose qui serait un peu intrinsèque à notre espèce et qui fait qu'on se soit mis à force dans une catastrophe assez irréversible, quoi. Et c'est connu depuis les Grecs, quoi, le panier percé, enfin le tonneau percé. Faut toujours créer des désirs factifs et les remplir à l'infini. Et remplir des désirs aujourd'hui, ça veut dire produire des déchets, et quelle que soit leur forme. Et c'est bien ce que je disais sur les privilèges, c'est bien ce qui devient très compliqué, quoi. C'est que, de toute façon, je serais bien en mal de dire aujourd'hui qu'est-ce que ça voudrait dire ne pas douter de ce qu'il faut faire en termes de sens de l'humanité. Enfin, je veux dire, oui, on peut avoir des formules, on peut se poser les questions qu'on entend beaucoup sur les notions de transition, qui même d'ailleurs... Il y a quelqu'un qui vient d'écrire un livre là-dessus, qui dit que la transition énergétique, c'est de la foutaise, c'est que du greenwashing, ça veut rien dire, ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Donc, ça n'existera jamais. À moins d'une mutation anthropologique qui semble complètement contradictoire avec ce qu'est l'humanité, indépendamment de ses formes d'organisation économique et sociale. Bien sûr que... Le capitalisme y est pour beaucoup, mais ce serait trop simple à chaque fois. Et d'ailleurs, on est bien en mal de donner un nom à ce qui nous arrive, puisque même on dit capitalocène, anthropocène, mais on ne sait pas quand commence le problème vraiment. On sait quand il s'aggrave et comment, mais on ne sait pas comment l'arrêter du coup. Et on ne sait pas non plus qui a un vrai discours de vérité qu'il est prêt à tenir jusqu'au bout. Donc sur ce plan-là, je parle des responsables et tout, mais bon, bref, voilà.
Mais justement, on parlait du doute, c'est que j'ai l'impression que les hommes politiques ne peuvent pas affirmer de doute, ce qui est un peu, justement, et donc peut-être que c'est la place, justement, des artistes de pouvoir dire ce
peut-être,
doute-là.
Ouais, des artistes, puis encore une fois, des philosophes, et en effet, des gens qui pensent pas. Mais là, pour le coup, c'est un mot qui devient compliqué, dans la question, en tout cas, parce que là, on laisse de côté la question féministe, mais dans la question de l'écologie en général, ceux qui ont ralenti et nous ont rendus aveugles, c'est ceux qui ont créé du doute là où il ne devait pas y en avoir. C'est tous les lobbies du pétrole et tout, enfin tout l'activisme qu'il y a eu pour nier le réchauffement climatique et ensuite pour faire croire qu'on trouverait des solutions simples et faire des choses en marge, etc. Après, c'est tout ce qu'on a essayé un peu de donner de manière très bouffonne dans le spectacle. C'est toute l'entreprise qui est beaucoup plus presque involontaire et inconsciente qu'on croit de greenwashing, qui fait que on crée des discours, on crée des cases, on crée des trucs, mais l'inertie et la violence du système est beaucoup plus puissant que tous les discours, les gestes et les soi-disant mutations et projets qu'on met en place pour contrer les choses. À l'image des COP, voilà, on rassemble des centaines de milliers de personnes qui en fait ne prennent aucune décision, qui ont valeur légale, etc., etc. Et c'est partout pareil dans les entreprises, pareil chez les gens. Le drame, c'est à la fois le déni, mais c'est aussi la tâche est tellement immense et implique tellement de sacrifices pour tout le monde, surtout bien sûr pour les plus nantis, mais que personne voudrait prendre la mesure de ce qu'il faudrait faire collectivement à l'échelle d'une ville, d'un pays, de l'Europe, du monde, pour essayer de sauver un tout petit peu ce qui est encore à sauver, quoi. C'est vraiment une tragédie. C'est aussi pour ça qu'on s'est mis en toge. On a récupéré des toges. Ça nous amusait de jouer avec cette idée de renouveau d'une forme de tragédie, quoi. C'est-à-dire, on est devant des alternatives, on peut dire des dissociations et tout, mais qui sont au fond de nous des petites tragédies. Alors, plus pour les bobos éduqués que pour les gens qui ne peuvent pas faire autrement, mais c'est un renouveau d'une situation tragique nouvelle qui pour l'instant n'ont pas le contenu et la gravité des tragédies au sens littéraire, mais qui vont vraisemblablement l'avoir à un moment.
Si je vois aussi peut-être aussi la difficulté d'imaginer des utopies, on a l'impression que c'est difficile. Il y a beaucoup de pièces, j'ai l'impression en ce moment, qui sont sur ça, de cette difficulté à se projeter dans quelque chose de différent et à sortir justement de cette logique dont vous parliez.
Ouais, bien sûr. Mais non, mais encore une fois, c'est... Par exemple, qui ose la décroissance, qui quand même est, pour n'importe quel enfant de 5 ans, le bon sens absolu. Enfin, je veux dire, c'est pas compliqué à comprendre qu'il n'y a pas vraiment d'autre alternative. Mais personne, c'est un gros mot, c'est le pire gros mot. Par exemple, donc... comment faire? Enfin, je veux dire, à partir du moment où personne n'adhère à ça... Et puis les utopies aussi, ben, y en a. Enfin, je veux dire, les utopies, on les connaît. Hein. C'est les mêmes que celles qui avaient en gros les hippies. C'est la décroissance, la sobriété. Mais tant que toutes les formes de possession, de richesse, de pouvoir ne seront pas des choses qui feront vomir l'humanité, il n'y a aucun espoir qu'il y ait quelconque utopie. Parce que, en gros, on sait bien que... on va vers moins de confort, plus de difficultés, plus de pauvreté, moins de liberté, des restrictions, des formes peut-être même de, pas de dictature, mais de réglementation plus stricte, qu'il faudrait aller vers ça. Mais quelle utopie, qui ça fait rêver? Personne. C'est pas un problème d'utopie, c'est un problème d'expliquer la vérité des choses et d'en tirer les conséquences. Mais... c'est pas un changement de récit, parce qu'on en entend beaucoup, les écologistes, il faut changer de récit. Mais le nouveau récit, c'est de dire qu'il faut juste être pauvre et moins confortable, et pas partir en vacances, moins manger moins de viande, moins se soigner, se rapprocher de la terre. Oui, alors on peut penser en effet que c'est parce qu'on peut renouer avec ce qu'on a perdu, comme rapport aux autres êtres et tout, bien sûr, mais... les gens qui tiennent ces discours-là, je ne pense pas qu'ils vivent dans une forme de pauvreté qui est quand même le fond de la décroissance. Et même les décroissants n'osent pas dire ça, quoi. C'est-à-dire qu'ils disent « mais non, on va faire autrement ». Mais c'est un peu ça la question. Enfin, je veux dire... moi, c'est vrai que je ne comprends pas que les gens... enfin, je veux dire, un enfant de 5 ans, il comprend que plus on brûle de CO2, plus on défonce le climat, plus on produit de plastique, plus on... détruit les océans, plus on bouffe de viande, plus... donc on est trop, justement, on est dans un excès qui fait que c'est pas possible. Et en plus, il y a des pénuries de matière, d'énergie qui vont arriver. Donc c'est évident qu'il faut réduire. Enfin, je veux dire, c'est pas compliqué. Parce que quelquefois, j'entends que les hommes politiques sont pas au courant. Mais je veux dire, comment on peut ne pas être au courant d'un truc qui prend 3 minutes à expliquer et qu'un enfant de 5 ans peut comprendre? Donc c'est pas vrai. C'est juste qu'on veut pas payer le prix de cette vérité. C'est ça, la question. Parce qu'elle est trop dure à faire entendre. C'est, moi, je crois que c'est plus ça qui... Si vous posiez la question de... C'est plus ça. On met une taxe de 20 centimes, même pas, sur le gasoil, et ça fait les gilets jaunes. Donc les gens se disent, oh là là, si on commence à expliquer que les riches doivent payer 90% d'impôts, et les pauvres, bah, faut qu'ils arrêtent de faire ci et ça, et qu'il faut que la nourriture coûte plus cher. Enfin, je veux dire... On voit même avec les problèmes des paysans et tout, c'est que on sait très bien ce qu'il faudrait faire, mais ça veut dire c'est interprété trop comme une forme de régression énorme, historique, et qu'il faudrait presque revenir à la France des années 50 en termes de confort et de liberté. Donc ça, c'est impossible à expliquer aux gens. Voilà. Là, pour le, je doute plus du tout.
Ah oui.
Je deviens très sérieux. Et je dis ce que je pense là-dessus, mais. C'est pas forcément ce que les autres pensent d'ailleurs, et voilà.
D'où ces débats aussi, puisque c'est une enseigne dans, voilà, dans la pièce, voilà. Autour de ça.
Ouais, ouais, bien sûr.
Mais comment, en fait, face à une telle matière, comment au bout d'un moment on se dit, ça y est, on a notre spectacle, parce que c'est quand même tellement.
Ouais. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile, ouais. Parce que au début, il y a trop de scènes, les scènes sont trop longues, et puis elles sont redondantes, puis on sait pas comment les agencer. Donc ça c'est un savoir-faire propre vraiment à ce groupe que j'adore, j'adore ce savoir-faire. C'est vraiment les auteurs disent bon bah mon truc c'est trop long, non ça je vais couper, ça on va réduire, là on va inventer une petite scène, là on va inventer un truc, pour tout ça pour créer un truc qui à partir de 5 gestes devienne un geste collectif et qui se déroule de A à Z, voilà. Et ça c'est le truc un peu alchimique, voilà, qu'il faut réussir à faire. Et ça prend un peu de temps. C'est-à-dire, à la première, pendant les 10 premières représentations, le spectacle, il change énormément, forcément. Puisqu'il n'y a pas personne dehors qui regarde. Puisqu'on est tous sur scène et tout, quasiment tout le temps. Donc il faut sans arrêt sentir de l'intérieur ce qui peut être modifié, quoi.
J'ai l'impression aussi que vous amusez à faire dire aux autres des choses que vous avez écrites, vous, non ? Il n'y a pas un peu un côté comme ça ?
Y en a qui écrivent plus ou moins, il y en a qui écrivent pour les autres, il y en a qui sont en impro, il y en a qui écrivent moins, il y en a qui coupent plus qu'ils écrivent, enfin je sais pas, il y a plein de... Ça dépend aussi d'un spectacle à l'autre. Moi c'est le premier vraiment que je suis avec eux, mais il y a une grande confiance, une grande écoute, une grande bienveillance aussi, qui fait qu'on écoute les autres et on tient compte de leur avis, quoi. Même si l'idée, c'est toujours d'essayer d'accompagner l'autre dans son projet, dans ce qu'il a envie de faire et qu'il n'arrive pas forcément à conceptualiser sans dialogue, tout seul, quoi. Donc,
vous venez de rejoindre, en fait, le
oui,
collectif.
Oui, c'est la première fois que je...
Parce qu'avant, vous étiez avec les Chiens de Navarre, c'est
ouais,
ça ?
Exactement, ouais. Ouais.
Et qu'est-ce qui est différent ou pareil ? Enfin, qu'est-ce que...
Bah là, les Chiens Navarres, c'était vraiment un travail d'improvisation, de A à Z, même en présentation. Il n'y a jamais un moment où on s'est assis autour d'une table pour discuter, presque, ou pour écrire, encore moins. Tout s'écrivait en impro, en situation. Donc c'est très... Je pense que ça nous amenait un petit peu vers des formes beaucoup plus régressives, moins articulées. Et ça ne parlait pas moins à travers les textes qu'à travers... quelque chose qui est entre le jeu, l'espace et le geste en général, quoi. Et ça donnait pas du tout le même théâtre, quoi. Là, il y a un truc quand même beaucoup plus travaillé, au sens où on lit beaucoup plus, on partage plus on écrit vraiment, on articule, même si c'est du théâtre, on articule quelque chose en l'écrivant. Et après, dans le jeu, il y a un peu l'équivalent, par contre. Dans le jeu, il y a une espèce de joie, de lâcher prise, de plaisir, et de capacité, et la possibilité d'improviser un peu, de modifier des choses, de faire comme on le sent. Ça, c'est très proche. Mais bon, c'est le théâtre, ça. Et puis, Chien Navarre, il y a quelqu'un qui regarde, et qui fait lui-même le montage. Il y a un metteur en scène, quoi. Un metteur en scène qui utilise ce que les acteurs produit sur le plateau, mais qui à partir de ça, lui, il organise. Il y a quelqu'un qui regarde, qui organise, qui est chef d'orchestre, mais c'est ça. C'était vraiment ça. Et là, il n'y en a pas. Donc, c'est compliqué de faire un projet où personne n'est dehors. C'est pas évident, en fait. C'est très spécial.
Et vous parlez de joie, et c'est vrai que dès le début, en fait, il y a un personnage, on va pas trop en dire, qui interpelle le public, et je pense que ça fait un peu partie de ça, de mettre en se dire, voilà, vous êtes dans ce type de théâtre où il y a de la joie, où c'est parce que le théâtre, ça peut être un peu sérieux.
Ah ouais, bien sûr. Non, mais justement, c'est toujours des thèmes plutôt sombres et durs, mais qu'on essaye toujours d'aborder assez frontalement, mais toujours à travers en créant des distances, ou dans le jeu, ou dans le personnage, etc. Et là, oui, un personnage au début qui accueille les gens, mais d'une certaine manière, qui essaye de créer un mélange de malaise, d'humour, qui prépare un peu, voilà. L'idée, encore une fois, c'est que les gens soient pris dans quelque chose et qu'on les lâche plus, on les prend par la main et pas qu'ils voient un tableau. Enfin, l'idée, c'est... Par moments, ça peut être très plus contemplatif et tout, mais l'idée, c'est en effet, encore une fois, il faut que le spectacle vivant, s'il veut survivre, par rapport à toutes les, comme disait Lelay, toutes les manières dont on peut s'emparer du cerveau des gens pour les divertir, il faut que le théâtre soit vivant et il faut qu'il fasse vivre une expérience aux gens qui sont là, une expérience publique, politique. Sinon, en effet, autant rester sur Netflix. Hein. Parce que là, tout ce qui est de l'ordre du spectacle, de l'écran, qui laisse le spectateur dans son fauteuil, ça, ils le font mieux que nous, enfin mieux que le théâtre. Donc. Mais c'est rassurant de voir que malgré toute l'offre et tout, il y a toujours des gens dans les salles, il y a toujours une envie d'être là, qu'on se perd pas dans les abstractions numériques et les pièges de toutes les industries numériques, culturelles et tout. Mais qu'il y a ce truc un peu originel toujours d'être là ensemble, que ce soit dans la musique, le théâtre.
Oui, de faire collectif, collectif sur scène et collectif...
Dans la salle, ouais, même s'il est éphémère et tout, mais oui. De rire ensemble, d'être joyeux ensemble, d'être touché ensemble, je pense que c'est un truc qui a du prix et qui est précieux, et on le sait au fond de nous, quoi. Même si c'est moins puissant en termes de pouvoir, de dispositif, de nous en foutre plein la vue et tout, mais il y a une limite au fait d'avoir envie qu'on nous en foute plein la vue, quoi. Et d'ailleurs, c'est très lié aux questions écologiques aussi, ça. C'est le truc de s'en foutre plein la vue, voilà. Mmh.
C'est oui, toujours, toujours plus.
Voilà, toujours plus, ouais.
Et je crois que j'ai lu qu'il va y avoir un film aussi, peu la même bande.
Ouais, alors Judith, ça fait deux fois qu'elle essaye, partant du travail du collectif, sur tout ce qu'elle y apporte, elle, en termes d'écriture et d'investissement, qu'elle essaye d'en faire du cinéma. Et donc elle a fait un premier long métrage à partir de spectacles plus anciens et qu'elle réécrit, qu'elle transforme. Évidemment, ça devient vraiment un film du cinéma, mais il y a des éléments qui restent, notamment les comédiens et puis certains personnages et surtout certaines nécessités d'écrire et de parler de quelque chose, mais là, voilà, sous forme de film, de scénario. Et là, c'est pareil, elle a écrit un film à partir un peu d'éléments de cette pièce et qu'elle va pousser jusqu'à... qu'elle en a fait un long métrage qu'on a tourné l'été dernier. Et là, elle est en train de finir le montage et normalement, tout sera prêt en avril et ça sortira l'année prochaine, quoi.
Et est-ce qu'il y a d'autres spectacles qui sont prévus ?
Ouais, y en a un qu'on va jouer l'année prochaine au Théâtre du Rond-Point et en tournée. Là, on va répéter en mars et en fin d'année, qui traite de plusieurs choses différentes, mais notamment de la question d'être désemparé face à la mort, celle des autres et la nôtre, et de ne pas savoir comment donner une place aux morts et qu'est-ce que la mort, à travers ça, représente dans nos vies, dans nos sociétés, etc. Et en même temps, évidemment, pour créer complètement l'inverse, c'était aussi un endroit où on voulait reprendre cette idée des bouffons, du masque, et de créer des personnages qui nous permettent d'exorciser des doubles et de manière très bouffonne et très joyeuse et d'essayer de... Même presque à un moment, on voulait faire une sorte de cabaret, oui, on a un travail avec des musiciens et tout. Donc ça va être un truc très, très curieux entre la question vraiment du deuil et tout ce que ça peut avoir de dur et puis un truc voilà, les morts reviennent, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, comment leur faire une place, tout ça. Enfin voilà, on cherche, on est dans ce...
Vous êtes encore en phase d'écriture, enfin de...
Ouais, on est encore en phase d'écriture, de réflexion, d'agencement, et voilà.
Alors Maxence Tuel, on va finir en musique, mais je ne sais pas si vous avez le nom de la musique, personne que vous voulez nous faire écouter.
J'ai oublié son nom parce que je perds la mémoire. Je suis
plutôt... Donc c'est dans le spectacle, on entend à un moment donné.
Dans le spectacle. Et j'ai complètement oublié son nom. Et c'est... Ah, Nina Simone, voilà. Nina Simone, bien sûr. Mmh. Une chanson de Nina Simone que voilà, je vais vous envoyer tout de suite et qui est magnifique.
Après notre rencontre, Maxence Tuel m'a envoyé par SMS le nom du morceau, Nina Simone, Something Wonderful.
This is a man who thinks with his heart is not always wise. This is a man who stumbles and falls, but this is a man who tries. This is a man you'll forgive and forgive and help to protect as long as you. You would have him say, but now and then he'll say something wonderful. The thoughtless things he'll do will hurt and worry you. Then all at once he'll do something. A thousand dreams that won't come true. You know that he believes in them and that's enough.
Virage, c'est fini pour cette semaine. Merci à toute l'équipe de Campus FM, Thomas en tête, comme toujours. Merci aux chers Margot, Pauline et Théo. Retrouvez-nous sur les réseaux X, Instagram, Facebook. Réécoutez-nous sur Ocha et les principales plateformes d'écoute. Rappel de notre mail si vous voulez nous écrire et pourquoi pas nous parler de vos virages. Virage-6 campusfm@mailo.com. Virage les chemins de la transition, c'est un programme en partenariat avec l'Université de Toulouse et le Conseil régional d'Occitanie. La semaine prochaine, vous retrouvez votre chère Margot qui reçoit la table de Gaïa. À bientôt. Thank you.